Ici Francis Richard, nous sommes le 20 novembre 2009 et je vous parle de Suisse romande. L'annexe à l'accord du 19 août 2009 entre la Suisse et les États-Unis a été publiée le 17 novembre. Mardi dernier, donc, la fameuse annexe à l'accord conclu le 19 août 2009 entre la Suisse et les États-Unis sur les comptes détenus à l'UBS par des Américains a été publiée comme prévu, 90 jours après la conclusion de cet accord. Ce qui est dit dans cette annexe n'est malheureusement pas surprenant. Je cite « Une demande d'entraide administrative implique en principe l'identification claire et précise des personnes concernées. Cependant, vu le comportement fautif mis en évidence chez certains contribuables américains, il n'est pas nécessaire de mentionner les noms des clients américains d'UBS dans la demande d'entraide administrative. » Autrement dit, sans langue de bois, en principe les noms ne doivent pas être donnés, mais vu le comportement fautif de certains Américains titulaires de comptes UBS, ils ne peuvent pas bénéficier de l'anonymat qui les aurait protégés normalement. Il n'est pas nécessaire que le fisc américain donne leur nom dans sa demande d'entraide judiciaire. Ils seront donnés sur un plateau par la Suisse. Auparavant, fautif ou pas, cela aurait été au fisc américain de donner les noms des présumés coupables. Qu'est-ce qui a changé? La Suisse a préféré défendre ses intérêts immédiats plutôt que ses principes. Belle mentalité. Car il n'y a pas d'autre raison qui justifie cette volte-face. Seront déclarés fautifs ceux pour lesquels il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des fraudes ou délits semblables. L'annexe nous éclaire sur les critères qui permettent de penser que des fraudes et délits ont été commis. Ce sont bien les critères que le centre patronal mentionnait dans son numéro 39 d'études et enquêtes de juin dernier, consacré au secret bancaire et à la place financière suisse. Ils correspondent aux trois cas de figure suivants. Premièrement, la fraude qui ne serait pas réalisée dans un but de fraude fiscale. Deuxièmement, la destruction de livres comptables, leur non-production et leur absence de tenue. Troisièmement, le fait de ne pas remplir une déclaration d'impôt. Couplé avec un comportement qui rend difficile, pour l'autorité fiscale, la découverte de certains éléments non déclarés. Aux critères définissant les présomptions de fraude ou délits semblables, l'annexe, ce qui est propre à l'accord du 19 août, ajoute des critères de montant, en avoir et en revenu, et divise les clients américains de l'UBS en deux catégories. Les clients titulaires directs et ayant droit économique de compte-titres, d'une part, les ayant droit économique de compte de société offshore, d'autre part. Pour les premiers, au nombre de 4200, ce sont les ressortissants domiciliés aux États-Unis qui sont visés. Et pour les seconds, au nombre de 250, ce sont tous les ressortissants, indépendamment de leur domicile. Je rappelle qu'en droit fiscal américain, l'imposition est fondée sur la nationalité, et pas seulement sur la résidence, ce qui permet d'introduire cette seconde catégorie de contribuables dans l'annexe à l'accord du 19 août. Jean Krepelka, dans un entretien accordé à Sonia Arnal, dans le matin dimanche du 8 novembre 2009, dit tout le mal qu'il pense de ce fondement de l'imposition. Je cite « Les États-Unis font payer des impôts à leurs ressortissants, même s'ils ne vivent plus sur le territoire américain depuis des dizaines d'années. Ces citoyens sont otages de leur passeport et victimes d'un abus de pouvoir de l'État. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le dossier de ces fautifs américains sera suffisamment bien ficelé autour de leur cou par l'Administration fédérale des contributions, AFC, pour que le recours éventuel qu'ils feront devant le tribunal administratif ne puisse pas aboutir. Ce sera un simulacre de procédure respectée puisque le résultat est garanti d'avance. Il ne faut pas oublier que la Suisse s'est engagée à donner les noms de ses 4450 clients américains de l'UBS et que si elle ne le fait pas, l'accord pourra être remis en cause par les États-Unis et la licence de l'UBS d'exercer aux États-Unis pourra être supprimée. Maintenant que 90 jours se sont écoulés, l'AFC est prête, comme convenu, à notifier aux 500 premiers clients qu'ils seront livrés au fisc américain, sauf recours de leur part, qui serait couronné de succès. Il y a 75 ans exactement, en 1934, le secret bancaire était renforcé dans la loi fédérale sur les banques, notamment dans les articles 162 et 320. Comme le rappelait Jean Krepelka dans l'entretien évoqué ci-dessus, je cite, « Quand en 1934, il est devenu punissable de divulguer des informations sur les détenteurs de comptes en banque, il s'agissait de protéger les avoirs de personnes persécutées par leur pays d'origine. Après la Grande Dépression, certains États ont interdit toutes les exportations de capitaux, même si leurs sources étaient parfaitement légales. Les gens qui tentaient de mettre à l'abri leur fortune risquaient de très lourdes peines de prison. Et dans une Europe d'avant-guerre très instable, où les dictatures commençaient à émerger, certains risquaient aussi la confiscation, par exemple à cause de leur appartenance religieuse. Garder le secret était primordial pour leur sécurité et a été vu à l'époque comme parfaitement en accord avec la défense des droits de l'homme et la morale. J'ajouterai que ce n'était pas une menace en l'air, puisque l'Allemagne nazie, en juin 1933, avait promulgué une série de lois obligeant les citoyens allemands à déclarer leurs avoirs à l'étranger. Pour défaut de déclaration, la sanction pouvait aller jusqu'à la peine de mort. Trois Allemands ont d'ailleurs été exécutés en 1934 pour crime de posséder un compte en Suisse. Jean Krepelka a raison de souligner que le secret bancaire relève des droits de l'homme. Chacun a droit au respect de sa sphère privée. Il n'y a aucune raison pour que l'État sache tout de votre santé ou de vos finances. De même qu'il faut des bonnes raisons et un mandat pour que des policiers viennent fouiller chez vous. Il faut aussi de très sérieuses raisons et des autorisations pour que vos comptes soient épluchés. Jean Krepelka conclut ainsi son entretien avec Sonia Arnal. Les États qui nous entourent, donc qui entourent la Suisse, et qui gèrent mal leurs finances publiques, vont continuer à faire pression non seulement sur leurs contribuables, mais aussi sur la communauté internationale pour freiner autant que possible la concurrence fiscale. Je vois gagner du terrain à cette conception très désagréable de l'impôt où l'État a un droit de plus en plus étendu sur le revenu du citoyen qui doit lui en rétrocéder une part toujours plus importante sans qu'on lui demande son avis et qui devrait en plus tout dire de comment il gagne sa vie, où il place son argent, ce qu'il en fait. Or le citoyen n'a pas à se justifier sur ces points. C'est aussi à cela que sert le secret bancaire, et pour cela qu'il faut le protéger. Dimanche dernier, 15 novembre 2009, Patrick Audier, le nouveau président de l'ASB, la Société Suisse des Banquiers, accordait un entretien à la NZZ am Sonntag, que le matin résume en ces termes. À l'avenir, les banques suisses doivent refuser l'argent non déclaré au fisc de clients étrangers. C'est qu'avec ce nouveau modèle commercial et l'introduction d'un impôt libératoire que l'Association suisse des banquiers veut contrer l'échange automatique d'informations réclamées par l'étranger dans la lutte contre l'évasion fiscale. Dans les passages que j'ai reproduits de son entretien au matin dimanche, Jean Krepelka a bien montré que le secret bancaire relève des droits de l'homme et qu'il est le garant de liberté individuelle que l'on s'empresse de mettre dans sa poche avec un mouchoir par-dessus au nom d'une réelle économie, bien éloignée des principes d'une libre économie. La Confédération suisse, en signant l'accord du 19 août 2009, dont nous connaissons maintenant l'annexe, l'Association suisse des banquiers, en déclarant par la voix de son président que les banques ne devraient plus accepter que de l'argent fiscalement propre, montre que les libertés individuelles sont le cadet de leurs soucis, à partir du moment où leurs intérêts sont en jeu. Cette attitude sans élégance n'est pas près de redorer le blason de la Suisse, passablement écorné ces derniers temps. Avant de quitter l'antenne, je rappelle à nos auditeurs que leurs réactions, leurs informations ou leurs commentaires sont les bienvenus et qu'ils peuvent nous les adresser par email en précisant seulement à quelle émission ils font référence. L'adresse email de la rédaction est radio-silence@wanadoo.fr. Je leur rappelle également qu'ils peuvent acquérir la carte annuelle d'amis de Radio Silence pour la modique somme de 20 euros. C'était Francis Richard qui vous parlait de Lausanne pour Radio Silence.